France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 14h04, c'est l'heure de retrouver Mathieu Vidard, la tête au carré. Bonjour Mathieu.
Bonjour Claire, merci.
C'est parti.
À tout à l'heure.
Alors,
la tête au carré.
À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
La tête au carré, c'est à la fois la tête dans le carré et puis le carré dans la tête.
La pure connaissance scientifique.
C'est la tête au carré.
On va faire une minute de méthodologie, mais dans un magazine scientifique, ça ne peut pas être
trop. La tête au carré.
Tenez-vous bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bonjour à tous, au menu de notre tête au carré, je vous propose aujourd'hui un dossier sur les nouvelles technologies qui sont mises au service des déficients visuels, alors que le gouvernement vient d'annoncer le 2 juin un plan handicap visuel pour 2008-2011. L'école d'ingénieurs de Nice, Polytechnique, s'organise depuis 6 ans maintenant la journée de 20 autour justement des nouvelles technologies et des déficients visuels. Et elle vient de récompenser pour la première fois un groupe d'étudiants ayant mis au point un jeu de simulation innovant adapté au handicap visuel. C'est donc le sujet de la tête au carré avec plusieurs invités que je vais vous présenter dans un instant. Et j'attends dès maintenant toutes vos réactions et vos questions sur ce thème en nous retrouvant sur franceinter.com. Retour également en Polynésie française au cours de l'émission tout à l'heure avec Daniel Fievé qui s'est rendu au large de Moréa pour rencontrer les biologistes qui travaillent sur les récifs coralliens. Voici un avant-goût de ce nouveau reportage.
Ici à Moréa, vous êtes confronté actuellement à un petit peu une sorte de bête tueuse qui fait des ravages sur le corail.
Donc c'est une étoile de mer qui vient se positionner sur le corail, dévagine son estomac. Son estomac se retrouve à l'extérieur, il le pose sur la surface de la colonie qu'il veut manger. Donc il digère tout le tissu vivant de la colonie. Et là, la colonie présente une grande cicatrice blanche qui est la trace de toute la partie qui a été digérée par les contestants.
La tête au carré donc sur l'île de Moréa près de Tahiti, c'est aux alentours de 14h50. Juste avant 15h, nous retrouverons la chronique de Vincent Olivier avec l'Express. Et aujourd'hui, il sera question de la possible légalisation des mères porteuses en France. Violaine Ballet réalise cette nouvelle tête au carré. C'est Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati qui ont préparé le dossier du jour.
Mathieu.
Revue de presse.
Oui, revue de presse. Dans la tête au carré.
Voilà.
Des foyers du virus H5N2, un sous-type du virus de la grippe aviaire, ont été découverts dans au moins 4 régions en Haïti. C'est ce qu'a déclaré mercredi soir à l'AFP le secrétaire d'État haïtien de l'agriculture, Johannes Gay, précisant que le H5N2, connu également sous le nom d'influenza aviaire, ne se transmet pas à l'homme, contrairement au H5N1, la forme la plus grave du virus. Il n'y aurait donc pas lieu de paniquer, selon le secrétaire d'État, qui a néanmoins annoncé la mise en place d'un cordon sanitaire sur la frontière avec la République dominicaine où des cas avaient été enregistrés auparavant. Les mesures d'interdiction d'importer des produits avicoles dominicains seront en outre maintenues et renforcées. Parallèlement, les autorités haïtiennes ont annoncé la mise en place en Haïti d'un système de surveillance épidémiologique afin de suivre l'évolution du virus dans le pays où aucun abattage d'animaux n'a été ordonné. Dans le Figaro, la correspondante au Brésil, Lamia Wallaou, révèle l'existence d'une tribu d'Indiens vivant sans contact avec le monde et qui a été découverte en Amazonie à la frontière avec le Pérou. Photographiée en avion par la Fondation Nationale Brésilienne de l'Indien, cette tribu vivrait de la chasse et de la culture de manioc, de bananes et de pommes de terre et serait composée d'environ 250 personnes. Le quotidien explique que la Fondation a cessé depuis les années 1980 de tenter de prendre contact avec les Indiens isolés, constatant que la moindre approche conduisait à leur mort. Non immunisés contre les maladies venues de l'extérieur, les indigènes sont en effet rapidement terrassés, même si l'échange avec des étrangers pleins de bonnes intentions ne dure que quelques minutes. Aujourd'hui, si la Fondation a décidé de dévoiler ces photos, c'est pour prouver l'existence de ces Indiens menacés par les avancées des chercheurs d'or, des coupeurs de bois et des planteurs de coca dans la région, ainsi que par les compagnies minières et d'hydrocarbures voulant mettre la main sur le sous-sol amazonien, quitte à violer les réserves indigènes. Le gouvernement brésilien estime qu'il existe encore au moins 68 tribus sans le moindre contact avec le reste du pays. Ils sont éparpillés sur 8 États. Dans le parisien.fr, Frédéric Mouchon indique que la grande distribution devra bientôt signaler sur les emballages le niveau de CO2 émis lors de la fabrication et le transport de ces produits. Les consommateurs pourront ainsi évaluer l'impact sur l'environnement de ce qu'ils achètent. Les produits importés ayant un prix écologique plus important que ceux made in France, une boîte de conserve française affiche par exemple un bilan de 225 grammes de CO2 contre 305 pour une boîte ayant fait le voyage d'Ukraine. Comme l'explique le journaliste, le groupe Casino a été le premier à s'être lancé dans cet étiquetage vert sur les 3000 produits alimentaires vendus sous son nom, après 2 ans d'études pour déterminer la quantité de carbone émise par ces produits. Le quotidien indique néanmoins que la vérité écologique des étiquettes a pour l'instant ses limites. Le bilan carbone de Casino ne tient pas par exemple compte de certains paramètres comme la consommation d'eau nécessaire à la fabrication du produit ou la quantité de pesticides utilisés. Et puis enfin, je vous signale la 10e édition du Salon Autonomique Paris 2008 qui se tient au parc des expositions de la Porte de Versailles jusqu'à demain. Destiné aux professionnels et au grand public, ce salon a pour objectif de présenter tous les produits et services concourant à améliorer l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes. Les informations pratiques sur Autonomique sont en ligne sur le site internet de La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Dossier justement consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies au service des déficients visuels. Fin mai, l'université de Nice, Sophia Antipolis, a donc organisé sa 6e journée qui présentait les technologies de l'information et de la communication mises à la disposition des déficients visuels en récompensant également une innovation technologique. Et puis quelques jours plus tard, donc le 2 juin, le gouvernement présentait un plan handicap visuel 2008-2011 d'un coût global de 18 millions d'euros pour améliorer la dignité, l'autonomie et l'intégration sociale des aveugles et malvoyants. L'un des objectifs du plan justement est de rendre plus accessibles les innovations technologiques. Alors pour parler ensemble de tous ces aspects, je reçois plusieurs invités autour du micro de La Tête au Carré. Anne-Marie Hugues, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du prix de 20 et maître de conférence à Polytech Nice Sophia. À vos côtés se trouve Jean Lherbon de Lussa, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes le co-président de ces journées de 20 et je précise que vous avez perdu la vue en 1993 à la suite d'une erreur médicale. Oui. Également avec nous, Antoine Marlier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élève ingénieur à Polytech Nice et félicitations car vous représentez le groupe d'étudiants qui d'ailleurs est là avec vous en studio, qui a reçu le prix de 20 2008. Alors pour quelle innovation technologique avez-vous été récompensé justement?
Alors nous avons conçu un jeu de simulation de snowboard qui a donc gagné le prix de 20 dû au fait de l'innovation d'un nouveau périphérique qui permet de piloter ce jeu, qui se commande donc directement via une planche de skateboard fixée à une planche en bois.
Voilà, vous avez même eu le courage de venir avec dans les bras aujourd'hui pour nous le présenter. Vous êtes allé au salon autonomique, hein, je crois hier, précisément
c'est ça,
à la Porte de Versailles.
Hier après-midi, toute la journée, toute l'après-midi au salon autonomique, afin de rencontrer diverses entreprises qui se sont passionnées pour notre jeu.
Voilà, et qui pourraient le mettre en vente, enfin d'abord le réaliser et ensuite le mettre en vente. Anne-Marie Hugues, c'est la première année que vous organisez ce prix qui était ouvert donc à tous les étudiants du réseau Polytech. Alors quel est ce réseau?
Alors le réseau Polytech est le réseau des écoles polytechniques universitaires, autrement dénommées Polytech, donc école d'ingénieurs en 5 ans, dans lesquelles on peut rentrer directement après le bac ou après une classe préparatoire, un IUT, ou encore L3 ou L2.
Mmh. Donc c'était la première fois que vous décidiez d'organiser ce prix?
C'était la première fois que nous organisions ce prix au niveau du réseau Polytech et je remercie Polytech Tours qui nous a rejoints puisque jusqu'à présent nos étudiants de Polytech Nice réalisaient des jeux tous les ans à l'attention des déficients visuels, jeux réalisés en partenariat avec l'Institut Clément Ader et l'École du Château, qui sont donc des écoles pour les enfants déficients visuels. Donc nous avons décidé l'an dernier, j'étais présidente de Devint l'an dernier et j'ai pris l'engagement d'ouvrir le prix Devint à l'ensemble du réseau Polytech, donc en espérant que plusieurs écoles nous rejoignent et décident donc de travailler pour les déficients visuels.
Alors on va présenter avec vous ces journées, bien sûr. Jean Lherbon de Lussa, est-ce qu'on peut préciser d'abord ce qu'on entend par déficient visuel?
Ah bah, déficient visuel, c'est quelqu'un qui voit pas très bien. Mais on peut estimer aujourd'hui, et je crois que lors du plan dont on parlera peut-être plus tard, on a estimé qu'il y avait presque 2 millions de personnes aveugles. Un déficient visuel, c'est soit quelqu'un qui a une très basse vision, soit quelqu'un qui est aveugle.
Donc on verra avec vous bien sûr les dispositifs qui existent pour les personnes mâles ou non-voyantes, avec vos attentes également autour de ces nouvelles technologies et donc la mise en place du plan handicap visuel. Et puis je signale que nous serons également en ligne dans quelques instants avec Laetitia Bernard, que les auditeurs de France Inter connaissent bien puisqu'elle a présenté récemment le journal des sports dans le 7-9 du week-end. Laetitia est non-voyante et elle nous expliquera quels outils elle utilise pour faire son métier de journaliste radio. J'attends vos messages bien sûr comme tous les jours sur franceinter.com. Et on se retrouve dans un instant pour cette nouvelle tête au carré juste après Princesse Erika. Et faut que je travaille. Bon après-midi.
Eh bien, je répondrai à Brigitte que on ne peut en écarter l'hypothèse.
Sur France Inter.
Les nouvelles technologies au service des déficients visuels, c'est donc le sujet de l'émission aujourd'hui avec vos messages qui arrivent sur franceinter.com et nos invités. Jean Larbon de Lussat, vous êtes donc le coprésident de ces journées de Reims, oui. Hein, qui se tiennent depuis... C'est 2003, hein.
2003, oui. C'était à l'occasion de l'année du handicap que des professeurs de l'école polytechnique Sophia ont eu l'initiative de se dire pourquoi ces étudiants qui font chaque année des projets c'est une école spécialisée, si vous voulez, en sciences de l'informatique, ils font des logiciels, et d'habitude il faisait un peu des logiciels au hasard. Et ce professeur a dit, ah bah tiens, vous pourriez faire des logiciels pour aider les personnes déficientes visuelles. Donc il y a eu cet effort, cet essai par deux ou trois étudiants à l'époque. Et aujourd'hui, on dénombre pas moins de 35 projets chaque année. Il y a eu un engouement des jeunes. Et il y a eu une vraie rencontre entre à la fois les professeurs, l'équipe de professeurs de cette école, et des associations, des institutions locales qui s'occupent d'enfants déficients visuels. Et il y a ce partenariat depuis 2003 entre ces deux mondes qui se sont rejoints et qui organisent cette journée qui a lieu fin mai, début juin, à la fin de l'année scolaire, dans la période de révision, où il y a les étudiants qui viennent, qui aident les aveugles à participer aux conférences, aux salons, et ça se réalise chaque année depuis 6 ans. C'est un petit miracle. C'est le seul endroit en France où on réalise une journée vraiment dédiée aux nouvelles technologies de l'information, de la communication et aux personnes déficientes visuelles.
Alors c'est un rendez-vous destiné au grand public, et puis l'objectif c'est aussi donc d'informer les personnes déficientes visuelles sur les avancées de ces nouvelles technologies.
Tout à fait, on essaie de faire le point, on a des thèmes, selon les années, on change de thème. Moi, on m'a demandé d'en prendre la coprésidence depuis 3 ans. Il y a 3 ans, on avait fait un thème sur, par exemple, la culture, les loisirs, on avait fait des choses, par exemple, sur la bibliothèque numérique, il y avait la bibliothèque Sésame, qui est aujourd'hui une grande bibliothèque qui compte plus de 10 000 livres numériques qu'on peut télécharger. Il y avait les gens du Louvre, de la Cité des Sciences, enfin des grands établissements publics, où il y a une politique d'ouverture aux déficients visuels. L'année dernière, je co-présidais avec Anne-Marie Hugues, ici présente, et on s'était occupé de l'insertion dans les métiers professionnels, si vous voulez, de l'accessibilité de la vie professionnelle. Et cette année, on s'est plus particulièrement intéressé aux instruments nomades, à tout ce qui touche au téléphone portable, qui n'est plus un téléphone aujourd'hui, qui sert à faire des tas de choses. Hier, sur le salon autonomique, on a pu constater les aveugles étaient tous très intéressés par ce nouveau téléphone qui permet, en photographiant par exemple une feuille de papier, vous appuyez sur un bouton et le téléphone vous lit la feuille de papier. Oui. Pour un aveugle, c'est une avancée extraordinaire, parce que imaginez-vous tout seul dans votre cuisine, vous voulez lire une étiquette, ben, vous prenez votre téléphone et clic. Donc ça, c'est des avancées que les nouvelles technologies permettent. Aujourd'hui, on a des GPS qui, bon, sont pas encore aussi performants qu'on pourrait l'espérer. Avec Galileo, ça sera probablement beaucoup mieux, mais les aveugles arrivent à se diriger. Bon, un GPS n'est pas assez précis au niveau du trottoir, mais il arrive à se repérer dans une ville. On n'aurait pas eu l'incident pour vous retrouver tout à l'heure, Mathieu.
Ouais, ouais,
on était perdu sous la pluie de Paris.
On s'est même croisé sans le savoir.
Voilà.
Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des retours, hein, des personnes déficientes visuelles qui viennent donc à l'occasion de ces journées. Est-ce que les besoins ont beaucoup évolué depuis la première édition?
Écoutez, ce qui est fantastique avec les nouvelles technologies, moi j'ai un parcours assez nouvelles technologies, puisque j'avais lancé Imagina dans les années 80. Ce qui est fantastique de remarquer, c'est un secteur qui évolue terriblement vite. Donc il y a une évolution sur les synthèses vocales, il y a une évolution sur tous ces jeunes là aujourd'hui qui nous entourent et qui trouvent de nouveaux logiciels et qui permettent de trouver de nouveaux moyens de repérer le monde autour de soi.
Alors c'est vrai que les nouvelles technologies évoluent très vite, d'abord pour les personnes valides, mais évidemment, est-ce que la difficulté, ça n'est pas de s'adapter en permanence après les personnes handicapées?
Le problème du handicap, comme son nom l'indique, c'est qu'on prend du retard, on va moins vite que les personnes valides. Et effectivement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les personnes valides, elles surfent sur l'internet, elles vont faire des recherches très rapides, et les personnes déficientes visuelles, elles ont du mal. On a beaucoup de mal, et c'est un des enjeux de la loi de 2005. Les décrets sont toujours pas sortis, il y a des pétitions, tout ça. On demande dans la loi de 2005, par exemple, à ce que tous les sites soient accessibles, au moins les sites publics, mais ils sont pas encore tous accessibles. Donc on a beaucoup de mal à transformer, si vous voulez, un site internet tête à travers un lecteur d'écran en langage soit braille, soit synthèse vocale. Les synthèses vocales ont fait énormément de progrès aujourd'hui. Elles vous parlent presque comme vous et moi. Enfin, on n'est pas encore au point de remplacer l'animateur de cette émission par une synthèse vocale, mais ça pourrait s'envisager.
Attention, on va préserver nos emplois. Alors justement, je souhaitais avoir en ligne la journaliste Laetitia Bernard, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, puisqu'elle a présenté le journal des sports dans le 7-9 du week-end. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors vous êtes en ce moment en Charente-Maritime, hein, puisque vous travaillez à France Bleu La Rochelle.
Exact.
Je précise que vous êtes non-voyante, et j'avoue que j'étais très curieux de comprendre comment vous parveniez à présenter les journaux ici à France Inter. Alors d'abord, vous êtes non seulement journaliste, mais également sportive, hein, puisque vous pratiquez l'équitation depuis votre enfance, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et en 2003, vous êtes même devenue championne de France handisport dans la catégorie saut d'obstacle. Et l'année dernière, vous avez également gagné la finale de la Coupe de France.
Exactement, je vois que vous savez tout.
Voilà. Et vous skiez également, Laetitia ?
J'ai skié, oui, mais avec un guide, mais je me suis fait un peu peur. À l'adolescence, il y avait beaucoup de snowboard qui nous passaient entre et autour, et ça faisait un peu peur, alors j'ai arrêté.
Ouais, alors justement, puisque vous êtes la marraine de ce prix Bevin de cette année, hein, c'est autour d'un snowboard que le prix a récompensé ses étudiants, donc on va en parler dans un instant. Laetitia Bernard, comment est-ce que vous êtes arrivée à la radio ?
Comment je suis arrivée à la radio en faisant une école de journalisme ? Non, mais sérieusement, j'écoutais la radio. Je pense que c'est le meilleur moyen d'information, surtout quand on est non-voyant, d'autant plus que il y a une dizaine d'années, quand j'étais au lycée, la presse écrite, on n'y avait quasiment pas accès, ou alors avec une semaine de décalage, le temps que les associations enregistrent les journaux. Donc c'est mes copines qui me lisaient, ça pouvait être Charlie Hebdo, ça pouvait être Jeune et Jolie, mais bon, c'était toujours sporadique, et voilà, c'était selon les humeurs de mes camarades de classe. Mais il y avait un média stable où je pouvais écouter, enfin m'informer de la manière que je voulais, c'était la radio. En l'occurrence, ça a commencé avec France Inter, et donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ensuite je me suis destinée, je voulais être journaliste, et moi j'avais envie de parler mes textes et de faire passer des informations par voie orale, en parlant quoi. Vraiment.
Alors vous avez décroché une bourse importante, hein, c'est la bourse Julien Prunet en 2005, qui permet à un étudiant en profil atypique, hein, justement d'intégrer le centre de formation des journalistes sans passer le concours, et c'est comme ça que vous êtes arrivé à Inter.
C'est comme ça que je suis arrivée au CFJ en fait, à l'école de journalisme, et que j'ai fait mes 2 ans de formation. Ensuite, j'ai pris la spécialisation radio qui a été chapeautée par Gérard Courchel, donc de France Inter. Et à la fin de la formation, enfin à la fin de la spécialisation, il y a une procédure de recrutement que mène Radio France dans toutes les écoles reconnues, dans toutes les écoles de journalisme, où on fait un journal, enfin où ils nous observent, hein, on fait une maquette. Et c'est pour faire des CDD d'été au sein de Radio France, donc sur des France Bleu ou sur France Inter. Et moi, j'ai été retenue à France Inter pour l'été dernier. Et puis ensuite, j'avais croisé la route de Jacques Vendroux qui m'a dit « Viens, on a besoin de toi au service des sports ».
Alors, quels sont les problèmes techniques qui se posent pour une journaliste non-voyante dans le traitement des informations ? Comment vous avez travaillé ici au sein de France Inter ou en ce moment à France Bleu, La Rochelle ?
J'ai un ordinateur donc avec une synthèse vocale, ce qui me permet de lire, enfin d'avoir une vocalisation de tout ce qui est sur l'écran. La synthèse fonctionne très très bien pour Internet, enfin tous les logiciels standards, Word, etc.
Oui.
Mais pour des logiciels en interne, comme on a à Radio France, pour le montage de son, ou même pour Open Media, bon les auditeurs connaissent pas forcément, mais c'est ce qui nous permet de rentrer les informations qu'on se passe entre journalistes. Là, c'est plus difficile. Il a fallu vraiment adapter la synthèse vocale, refaire ce qu'on appelle des scripts. Donc justement, les nouvelles technologies ont joué un vrai grand rôle dans tout ça.
Oui.
Donc moi, j'ai une lecture orale de tout, des dépêches, enfin des informations, oui. Que je note ensuite. J'écris mon journal en autonome sur une petite, sur un bloc-notes en fait, sur un petit ordinateur avec une ligne braille,
oui.
Et avec un clavier braille, et que j'emmène ensuite à l'antenne pour avoir un support écrit quand je lis, quand je présente mon journal.
C'est-à-dire que l'ensemble de votre journal est écrit en braille ?
Tout est écrit en braille, oui.
Oui.
Tout est écrit en braille. Alors, c'est pas très pratique parce que c'est une plage de 30 ou de 40 caractères que je dois défiler, en faire défiler en appuyant sur un petit bouton.
Oui.
Donc, des fois, ça donne lieu à quelques couacs, mais ou à quelques blancs quand il y a eu une petite faute de frappe et que
oui.
Je me retrouve face à une ligne blanche. Bon, je fais quasiment du par cœur aussi, hein, mais j'ai un support écrit en braille, une machine où je peux justement modifier s'il y a une information qui tombe sur à la dernière minute. C'est pas pratique, mais au moins je peux prendre les notes importantes, 3 mots-clés, et puis à les avoir sous les doigts, quoi.
Et alors, quelles sont les technologies dont vous auriez besoin en priorité aujourd'hui pour d'une part votre métier de journaliste et puis ensuite pour votre vie quotidienne?
Pour mon métier de journaliste, je dirais encore des avancées informatiques pour que tous les logiciels puissent être accessibles. Mais là, ça me paraît encore compliqué parce que beaucoup de logiciels à base de graphiques, etc., où les synthèses vocales peuvent pas bien se repérer, ils ne comprennent pas. Et sur un plan vraiment de rapidité pour être efficace, pour pouvoir faire des recherches plus vite quand on a besoin d'une info très très vite avant un journal, c'est là encore où ça pêche. Et puis tous les bloc-notes braille aussi, peut-être les rendre plus encore plus opérationnel. Là, je vois j'ai un tout nouveau prototype qui est très ergonomique, mais quand on appuie parfois sur les boutons pour écrire, y a certains points qui marchent pas bien. Enfin, c'est comme si, comme moi j'écris vite, peut-être, comme si l'appareil était pas prévu pour une telle efficacité, je sais pas, pas une telle rapidité.
Ouais, c'est un marché tout petit, hein, le marché des voilà. aveugles, donc on a souvent des appareils qui sont proches des prototypes. Mais je voulais dire à Laetitia que l'année dernière à Devin, on a présenté par exemple un appareil qui a été développé par des Anglais qui permet de voir des graphiques en relief. C'est-à-dire, c'est fait dans un but pédagogique. On peut par exemple montrer un écorché d'un corps humain ou montrer un schéma technique. Alors bon, c'est encore quelque chose qui est aussi au début, mais je n'espère pas pour moi et pour elle que bientôt on puisse voir des images au bout des doigts. Ça pose des problèmes d'interprétation, c'est moins immédiat que la vue.
Oui, ça c'est sûr. Mais non, c'est sûr que toutes les avancées des nouvelles technologies, enfin toutes les recherches sont à encourager. Je vois, on parlait des téléphones portables. Là, moi, j'en ai un vocalisé. Il y a 2 ans, j'en avais pas, ça n'existait pas. Maintenant, je peux même pas m'imaginer ne plus avoir de vocalisation sur mon téléphone. Je pourrais plus accéder à mon répertoire, je pourrais plus lire les SMS. Ça a été une révolution d'avoir une vocalisation.
Merci beaucoup, Laetitia Bernard. J'espère qu'on va vous revoir bientôt sur France Inter.
Bon, on verra ça dans quelques mois. Pour l'instant, je suis très bien aussi à La Rochelle.
À La Rochelle, écoutez. En tout cas, merci pour vos explications et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Alors, les auditeurs ont des questions à vous poser. Jean-Larbon de Lussat, cette question de Sylvain. Quelle est la place du chien d'aveugle dans toute cette abondance de nouvelles technologies, notamment GPS? Ces dernières ne vont-elles pas désociabiliser certaines personnes alors que le chien est un facteur de rencontre et d'échange?
Alors ça, c'est un point de vue de cet auditeur, c'est Sylvain, c'est ça?
Oui.
Moi, personnellement, je n'ai pas de chien d'aveugle parce que je trouve que ça serait peut-être un écran entre moi et la société. Mais ça dépend vraiment des aveugles. J'ai des amis qui ont des chiens d'aveugle, des amis aveugles comme moi, et d'autres qui n'en ont pas. Et c'est vraiment un choix personnel.
Apparemment, Sylvain pense que c'est plutôt un facteur de socialisation.
Pour Sylvain, c'est un facteur de socialisation. Ça dépend aussi un peu du caractère de la personne.
C'est une question qui revient souvent dans les journées de vin, cette place du chien d'aveugle, justement, et avec la même remarque des sociétés. Donc ça dépend un petit peu, je crois, des aveugles. Mais on a à Devin des gens qui viennent avec leur chien d'aveugle et qui sont intéressés par les nouvelles technologies. Il n'y a pas de souci.
Et aujourd'hui, le GPS, pour répondre à Sylvain, permet d'aller à un point, de trouver une adresse. Mais le chien est indispensable pour éviter l'obstacle immédiat. D'ailleurs, en général, on a un chien et une canne. Donc ce sont des aides qui s'accumulent. La canne n'est pas très nouvelle technologie, mais aussi indispensable.
Oui.
C'est des choses qui vont s'ajouter et que les aveugles les plus adroits vont utiliser au mieux et en fonction de leurs besoins.
Allez, on retrouve dans un instant Anne-Marie, vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit autour de ce prix. Et puis, bien sûr, Antoine Marlier nous présentera ce jeu qui a reçu cette récompense. Et puis, je vous soumettrai les courriels qui arrivent sur franceinter.com.
Désormais solaire, beaucoup moins colère, moins à l'ouest, plus épais, plus physique. Désormais d'équerre, à l'endroit, à l'envers, moins étroit, moins opaque, moins dyslexique. Avec ou sans escale, plus direct, moins convaincu, moins toxique.
Alan Keller avec Désormais Solaire, émission consacrée au handicap visuel avec nos invités à l'occasion de la remise du prix Devin. Donc c'était il y a quelques jours à Nice avec Polytech Nice, Sophia Antipolis et donc nos invités pour répondre également à vos courriels. Anne-Marie Hugues, vous êtes spécialiste de génie logiciel. Vous avez participé à de nombreux projets de recherche et de développement. J'imagine qu'en proposant donc de récompenser des étudiants cette année, vous attendiez de nouvelles innovations pour les déficients visuels, de nouvelles idées peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé avant.
Certainement, les étudiants qui sont très innovants pensent toujours à des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Cette initiative du prix de vin, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, pour d'abord favoriser la créativité à l'attention des personnes déficientes visuelles et aussi faire connaître un petit peu ses besoins, faire diffuser aussi les jeux de vin qui sont réalisés chaque année pour nos étudiants et qui sont disponibles sur notre site web et également disponibles sur demande sur un CD de vin dont j'ai eu le plaisir de vous remettre une copie.
Donc c'est en accès libre, ça il faut le préciser.
Alors,
effectivement.
Nous tenons important. Beaucoup à ce que les logiciels réalisés dans le cadre de Polytech Nice Sophia et plus tard dans le cadre du réseau Polytech soient diffusés librement. Ouais. Nous en voulons pour témoin un de nos élèves qui présente ces jours-ci son projet de 20 aux journées du logiciel libre.
Mmh. Alors cette question d'Aline, et puis ensuite on passera aux gagnants qui sont avec nous en studio, elle est à Saint-Quentin-la-Poterie, elle a une amie non-voyante qui cherche une plaque de cuisson avec commande vocale, et malgré ses recherches, il n'arrive pas à savoir si ce genre d'appareil existe. Jean Larbon de Lussat, qu'est-ce qu'on peut répondre?
Ben écoutez, je sais qu'il existe des fours et des plaques de cuisson qui sont vocalisées, c'est-à-dire qu'ils vont donner l'information à la personne qui est là, qui ne peut pas regarder sur la hauteur de la température, des choses comme ça. À commande vocale, c'est différent. Il faudrait dire four, mets-toi en marche, four, arrête, vous voyez, ce genre de choses. Je sais pas, il faudrait aller fouiller à autonomie.
Moi, je crois que plus généralement, ça pose le problème de la domotique et de la commande à distance, qui n'est pas propre aux déficients visuels, mais qui peut servir à toute personne handicapée.
Ouais.
Et à Polytech Nice, nous avons un laboratoire d'informatique ambiante, que nous appelons l'Ubiquarium, dans lequel nos chercheurs travaillent justement sur tous ces aspects, informatique ambiante, donc, et qui peuvent en particulier servir aux handicapés, mais à bien d'autres choses encore.
Et hier, le président de CESAM, la Francis Pérez, me disait, quand on évoquait ce genre de problème, mais vous avez maintenant le sixième sens, c'est-à-dire que l'informatique va permettre de poser sur une plaque ou dans un four à micro-ondes un aliment, et c'est l'instrument qui lui-même va connaître le besoin de cuisson de cet aliment. Alors, il paraît que c'est des choses qui se développent. Je ne suis pas spécialiste.
Alors, le gagnant de votre prix 2008 est avec nous, Antoine Marlier, avec vos camarades étudiants. On peut les citer d'ailleurs, puisqu'ils sont installés ici dans le studio.
Tout à fait. Donc, on a fait le projet à quatre. Il y a avec moi Joris Buchou, Chloé Roger et Cyril Bondu.
Et donc, vous avez mis en place ce snowboard. Hein. C'est pour cette réalisation que vous avez été récompensé.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a sensibilisé d'abord à ce problème de la déficience visuelle au départ?
C'est-à-dire que ça s'est inclus dans le cursus de la première année de l'école d'ingénieur et ça semble un projet très concret et très utile et citoyen parce que on a l'habitude de faire des projets qu'on rend directement au professeur et qui sont juste étudiés et notés. Et là, par contre, ça suit plus le cycle de vie de création d'un logiciel. Donc on se retrouve avec une journée de recettes du logiciel, le jour de la journée de vin, durant laquelle on voit vraiment quelle a été l'utilité de notre logiciel face au public auquel il est destiné.
Donc vous avez eu l'année en fait pour réaliser ce projet?
Non, nous avons disposé d'un créneau d'une demi-journée par semaine durant un peu plus de 10 semaines.
Ah oui, quand même, oui. Voilà. Donc il fallait aller assez vite pour réaliser le projet. Alors comment vous avez développé cette idée de snowboard avec vos camarades?
Alors c'est une idée qui est venue relativement vite, bizarrement, mais on a réfléchi à un projet qui soit sociabilisant et innovant.
Mm-hmm.
Donc on a trouvé l'intérêt de faire donc un nouveau périphérique intéressant, qui est donc une planche de snowboard sur laquelle on se penche pour commander le jeu. Donc c'est très intéressant au niveau psychomoteur pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. De se retrouver en équilibre instable et très formateur.
Et vous avez testé, je crois, Jean-Laurent Bussard.
Ah oui, moi j'ai testé
ce snowboard. Alors, les impressions.
Le jury a testé tous les jeux, oui.
Et comme dans le jury, j'étais la personne aveugle, si vous voulez, du jury, avec nos amis d'IBM France et puis de l'Institut Clément Ader et l'INRIA. On était donc 7 membres de jury. On a regardé tous les projets. Il y en avait beaucoup, très intéressants d'ailleurs. Et quand est arrivé le tour d'Antoine et de son snowboard, j'ai pas pu résister au plaisir d'aller monter sur la planche et de faire une partie. Alors, je sais pas combien d'arbres j'ai fauché parce que ce que n'expliquait pas Antoine, c'est qu'il y a, pour les gens qui voient, on a une représentation visuelle d'une forêt et quand on loupe notre descente, ben on va dans la forêt, on se cogne dans les arbres, je crois que c'est assez sympathique. Et donc j'entendais un retour son qui me disait à gauche, à droite, et donc je rectifiais la position pour rejoindre le milieu de la piste avec mon snow.
Et pour répondre à Laetitia qui a essayé le ski, en fait, ce que nous disaient les étudiants lors du jury, c'est qu'ils ont vraiment simulé exactement ce qui se passe avec un guide qui conduit quelqu'un d'aveugle.
Pourquoi est-ce que vous avez souhaité récompenser un jeu, Anne-Marie Hugues?
Alors,
parce qu'on pourrait trouver ça assez futile par rapport aux besoins des personnes mâles ou non-voyantes.
Les gens qui me connaissent bien savent combien je suis hostile aux jeux électroniques et que j'interdis pratiquement à mes enfants de les pratiquer. Alors pourquoi un jeu? Parce que justement, pour les déficients visuels, pourquoi pas un jeu? Je crois qu'on pense, on pense beaucoup à leur développement, on pense beaucoup à leur éducation, mais ils ont le droit de jouer aussi. Et je crois qu'offrir des jeux à ces jeunes déficients visuels des deux instituts avec lesquels nous travaillons, c'est un facteur socialisant et citoyen.
Alors évidemment, Antoine Marlier, vous espérez des avancées, hein. Vous avez fait des rencontres, on le disait hier, avec des entreprises, même si le jeu donc ne sera pas dans le commerce, puisqu'il est en accès libre, hein, c'est ça?
Tout à fait. Donc oui, tout d'abord, le prix de vin, je signale juste qu'il a été sponsorisé par IBM, donc c'est ce qui fournit une possibilité future de peut-être commercialisation de la planche de skateboard en elle-même, même si le logiciel sera probablement diffusé gratuitement.
Alors justement, il y a beaucoup de mails de personnes malvoyantes ou non-voyantes sur le coût des installations technologiques. Donc ça, c'est un vrai problème. On en parle avec vous, Jean-Lerbon de Lussat. Il y a vraiment un coût très important. C'est un vrai luxe de se permettre d'avoir ce genre de technologie à la maison.
Le skateboard?
Non, je ne parle pas du skateboard.
Ils l'ont fait avec une vieille planche de skate, mais beaucoup de
je cite Aurélie, par exemple,
d'ingéniosité.
Ouais, Aurélie, qui est à Nogent-sur-Marne, nous dit « J'utilise pas le braille, mais une synthèse vocale et un logiciel d'agrandissement. Ces logiciels ont fait beaucoup de progrès, mais ils restent confidentiels et donc très chers. Il faut que j'achète la mise à jour qui coûte 400 euros. »
Pour la synthèse vocale?
Pour ça doit être ZoomText, je pense. Ce genre de logiciel, c'est une personne malvoyante. C'est sûr que c'est des logiciels qui coûtent très cher. Pour la plus grande des raisons, c'est que le marché est petit. Donc il y a peu de demandes, il y a peu d'offres. Donc c'est un marché un peu de niche pour certains industriels. Donc ils mettent pas les moyens qu'ils mettraient, par exemple, pour faire tomber les coûts d'instruments plus complexes. Là, hier, le petit logiciel merveilleux dont je vous parlais, qui permet de faire de la reconnaissance optique du caractère à partir d'un téléphone portable, c'est 1 300 euros sur un téléphone installé. Le téléphone, vous êtes obligé d'acheter un téléphone haut de gamme à 300 euros, et vous devez mettre, ou 400 euros, je crois, et vous devez rajouter en plus le logiciel Tox, qui est le logiciel qui permet à votre téléphone de parler. Donc, bon an, mal an, c'est autour de 2000 euros. Alors ça, bon, ça, il vient d'apparaître au salon autonomique, et on l'a présenté ce mois-ci. Les prix vont peut-être baisser. Mais si vous voulez, le problème que rencontrent la plupart des aveugles, effectivement, quand ils ne sont pas aidés, c'est ce genre de problème. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ont été votées la loi de 2005 pour aider les aveugles. Il y a encore beaucoup d'attentes du côté des associations, du côté des personnes déficientes visuelles, sur le financement de ces appareils qui sont coûteux. C'est vrai que la cécité et le fait d'être en fauteuil roulant sont deux des déficiences qui sont les plus chères à compenser. Un fauteuil aussi, ça coûte très cher. Et ça, c'est tous les enjeux de notre société d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avait supprimé le lundi de Pentecôte, qu'on a remis, et qu'on a demandé un effort chez vous, à la nation française, pour participer, et que l'État puisse financer ce genre d'appareil. En fait, ils sont financés par des fonds. Il y a la GFIP, par exemple, qui est connue, qui est un fonds qui finance dans le privé. Il y a un fonds aussi qui a été créé pour les fonctionnaires. Il y a des caisses qui sont créées pour arriver à financer ces instruments.
Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce plan handicap visuel 2008-2011 avec 18 millions d'euros donc qui vont servir à améliorer le quotidien et l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes? C'est un plan qui est issu d'un rapport remis en janvier au gouvernement par le chanteur Gilbert Montagnier. Comment est-ce que vous avez reçu l'annonce de ce plan? Est-ce qu'il vous semble correspondre aux attentes des personnes déficientes visuelles?
Écoutez, quand on a vu le travail qu'a fait Gilbert Montagnier, on peut éprouver de la sympathie pour un tel optimisme et autant d'espoir, en tout cas, parce que le plan que le ministre a annoncé là chez Cessia, c'était effectivement le 3 juin, c'est un plan, quand vous le lisez, on se dit, c'est merveilleux, si on fait tout ça, la France sera un pays de rêve, à l'égal de la Suède, de la Norvège, des pays qui sont avancés, qui prennent le handicap en compte. C'est vrai que pour ça, au sein de l'Europe, la France est assez retardée et il y a un gros retard à combler. Donc si on peut remplir tous ces objectifs et que l'argent qui est prévu est vraiment mis à contribution pour les objectifs demandés, tant mieux. Moi, en tant que spectateur de cette politique, je souhaite que ça avance. Je peux pas vous dire plus. Je suis pas un acteur politique de la République française. Par contre, on voit des choses étonnantes. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Il y a une départementalisation de l'attribution, par exemple, des aides aux personnes handicapées visuelles. Récemment, il y avait un débat parce que dans 2 ou 3 départements, on refuse, par exemple, à certains handicapés visuels de leur verser l'allocation qu'on va verser dans d'autres départements, dans tous les autres d'ailleurs, je crois, sous prétexte qu'ils travaillent. Il y a des problèmes de conflits d'interprétation des textes. On est dans une période en ce moment de grand chambardement.
On va terminer avec vous, Anne-Marie Hugues, peut-être en donnant le site internet, puisqu'il nous reste 15 secondes pour tous ceux qui souhaitent prendre des renseignements sur ce prix d'abord, hein, de 20, et puis sur la possibilité d'acquérir ce jeu de simulation. C'est devin.polytech.unis.fr, c'est bien ça?
Exactement. Hein? Et je voudrais aussi rebondir quand même sur la notion.
Répète-le, parce que...
Il est en lien, vous inquiétez pas, sur la tête au carré, donc on peut l'avoir.
Je voudrais quand même signaler par rapport à la question du coût, que donc, non seulement nos logiciels sont libres pour tous les enfants, mais aussi nous diffusons une synthèse vocal qui est aussi d'accès libre, qui s'appelle SIVOX, qui a été développé avec les étudiants par un professeur de Polytechnis.
Merci beaucoup.
Qui sera accessible sur le site.
À tous les trois, et bravo encore.
Et Devin, c'est D-E-V-I-N-T, Déficience Visuelle Nouvelle Technologie.
Et on met tout ça sur la tête au carré. Voilà. Merci, bon retour à Nice.
Merci beaucoup.
Merci.
Yeah.
New York avec Cat Power. Et nous repartons en mer aujourd'hui au large de Moréa, une île située juste à côté de Tahiti. Également très volcanique, cette île est entourée de récifs coralliens. Ce sont les reportages de Daniel Fivet. Et nous retrouvons le biologiste Moshen Kayal, basé au Centre de Recherche Insulaire et l'Observatoire de l'Environnement sur l'île de Moréa.
Moshen, juste quelques secondes pour prendre le temps quand même de décrire le superbe paysage. Donc là, on est juste devant l'île de Moréa, l'île juste à côté, l'île sœur de Tahiti.
Alors, Moréa est une île volcanique, donc pareil que Tahiti.
Donc il y a des pics acérés qui se dressent vers le ciel. C'est très vert, tout ça, parce qu'évidemment, il pleut régulièrement.
Voilà. Nous, on est parti en fait du fond de la baie. Ensuite, on a traversé ce qu'on appelle plutôt le chenal, puisque le terme lagon est réservé aux atolls, pour venir ici jusqu'en face du récif barrière. Il y a différents aspects qui font que le corail est un peu crucial à tout ce milieu récifal. D'une part, c'est lui qui calcifie, c'est lui qui fabrique toute la structure du récif puisqu'il synthétise son squelette qui est calcaire. Et donc, il forme l'habitat sur lequel vont venir habiter les autres espèces, notamment les poissons ou les invertébrés, etc. Donc le corail vit en symbiose avec une algue qui vit à l'intérieur des tissus et donc là il participe à toute la photosynthèse, la transformation de l'énergie lumineuse en énergie organique. Cette énergie va être transmise au niveau de la chaîne alimentaire avec les prédateurs qui vont venir se nourrir sur les coraux.
Et là dans le bateau il y a plein de cages en grillage.
C'est pour justement notre manipulation par rapport à la prédation sur les coraux. Donc il s'agit de les protéger par rapport à ces prédateurs pour voir si le fait d'empêcher des prédateurs d'accéder à nos colonies va permettre d'augmenter le taux de survie ou le taux de croissance des colonies.
Là, on met les cages à l'eau. Bon, ensuite, quand on va descendre en plongée, on va pouvoir les fixer une à une.
Et vous allez les retrouver, toutes ces cages que vous êtes en train de jeter dans l'eau, là ?
Oui, là, on est exactement au-dessus du site d'étude. Donc une fois qu'on descend, on va s'amarrer à la bouée qui est juste à côté. Ici, ce qu'on fait, c'est vraiment une approche expérimentale, donc où il s'agit d'évaluer le rôle de la prédation et de la compétition dans la régulation de nos populations de coraux.
Ce dont on se rend peut-être pas bien compte, c'est que le corail, on a l'impression que c'est très statique, et finalement, c'est une vraie guerre qui se joue à la fois entre les différents types de coraux, parce qu'évidemment, il y a plusieurs espèces, et puis il y a les alliés, on va dire, ceux qui vivent en symbiose, qui protègent les coraux, puis il y a ceux, au contraire, qui les détruisent.
Oui, c'est vraiment la jungle là-dessous. On peut comparer ça un peu à ce qui se passe dans les forêts tropicales, vraiment, où chaque plante essaye de croître un peu plus rapidement que les autres pour essayer de capter plus de lumière. Ensuite, il y a vraiment une bataille au niveau de l'acquisition de l'espace, où les colonies, une fois qu'elles sont en contact l'une avec l'autre, s'attaquent mutuellement. Et ensuite, en plus de ça, on a toutes les interactions donc de prédation, où il y a un certain nombre d'organismes qui viennent attaquer les colonies, et certaines espèces de corail présentent des organismes symbiontes qui vont permettre de les protéger, notamment par rapport
à... Alors voilà, les organismes symbiontes, c'est les alliés, hein, c'est ça ? Alors par exemple, on a quoi ?
On a un petit crabe qui vit en symbiote au sein des colonies et qui est vraiment assez déterminé à protéger sa colonie de corail contre la prédation. Quand on arrive et par exemple qu'on pose la main ou qu'on s'approche un peu trop près d'une colonie, on a ces crabes-là qui sortent pour repousser un peu l'envahisseur.
Et alors ici à Moréa, vous êtes confronté actuellement à un petit peu une sorte de bête tueuse qui fait des ravages sur le corail.
Donc c'est une étoile de mer qui s'appelle l'Acanthaster terpensi, couramment appelée coussin de belle-mer. Certaines années, il y a des proliférations qui sont observées. Donc on a ça en ce moment ici en Polynésie. La dernière fois qu'on a eu une vague pareille, c'était il y a une vingtaine d'années. C'est un prédateur qui vient se positionner sur le corail, dévagine son estomac.
Dévagine son estomac, c'est-à-dire que littéralement, elle sort son estomac, elle le met à l'extérieur.
Voilà, son estomac se retourne, se retrouve à l'extérieur, il le pose sur la surface de la colonie qu'il veut manger. Donc il digère tout le tissu vivant de la colonie, ensuite il ravale toute la soupe et se déplace pour aller attaquer une autre colonie. Et là, la colonie qui a été digérée, elle présente une grande cicatrice blanche, donc qui est la trace de toute la partie qui a été digérée par la Acanthaster. Et aujourd'hui, comme on a une assez bonne visibilité, avec une eau assez claire, on arrive à voir ici, donc on a à peu près une dizaine de mètres sous le bateau. Et d'ici, on voit très bien ces cicatrices blanches rien que dans le champ de vision, dans les quelques mètres carrés en dessous de nous, on en a une dizaine de ces cicatrices.
Et alors, est-ce que c'est forcément un mal, le fait qu'il y ait comme ça, de temps en temps, une espèce qui vienne faire des dégâts dans le récif?
Sur court terme, on pourrait penser que c'est mal. Maintenant, sur long terme, ça permet un peu... On assimile ça un peu, on peut comparer aux feux de forêt, en certaines forêts, où ça redynamise tout le système. Ça permet de refaire le zéro à certains endroits, et puis on va avoir d'autres espèces qui vont venir s'installer. Et finalement, ces perturbations, à condition que ce ne soit pas à trop haute fréquence, peuvent favoriser l'accumulation de la biodiversité sur nos récifs.
Ça peut relancer un petit peu certaines espèces qui étaient en perte de vitesse, qui étaient en train de se faire dévorer par celles qui prenaient de plus en plus de place.
Voilà, absolument. Je vais descendre, je vais commencer à repérer les colonies qui m'intéressent. Je vais les mesurer, prendre une photo et mettre une étiquette à côté. Ensuite, mes camarades vont descendre juste derrière moi et ils vont commencer à poser donc pour les colonies auxquelles on applique le traitement cage.
C'est vrai que t'aurais qu'à descendre, genre t'aurais qu'à me laisser une dizaine de minutes. Ok, bah, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Je vous propose deux sites en lien sur le site de la Tête au Carré, celui du Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement de l'île de Moréa, qu'on entendait il y a un instant, et puis également celui de l'Office du Tourisme de Tahiti, qui nous a aidés pour ce voyage.
Les chroniques scientifiques avec l'Express, c'est bien le jeudi sur France Inter.
Dis donc, il y a du volume.
Oui, un Vincent Olivier en pleine forme aujourd'hui. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Alors cette semaine dans l'Express, vous consacrez un dossier aux mères porteuses.
Oui, les médecins appellent ça la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Et concrètement, ça se passe de la façon suivante. Je voulais qu'on rappelle un petit peu ça, parce que enfin, les gens mélangent un petit peu don d'ovocytes, gestation pour autrui, etc. Concrètement, ça se passe comment? Dans un premier temps, un couple et une mère porteuse se rencontrent et trouvent un accord uniquement entre eux, qui est à la fois financier et moral. Ensuite, et ensuite seulement dans un deuxième temps, les futurs parents vont dans un hôpital, effectuer une FIV, fécondation in vitro, ça veut dire qu'on prélève l'ovocyte de la mère, on le féconde avec un spermatozoïde du père, et on met en culture cet embryon. Et évidemment, dans un troisième temps, on réimplante l'embryon dans le ventre de la mère porteuse, qui va donc accoucher sous son nom, mais qui va déclarer le père comme étant celui dont on a prélevé les spermatozoïdes.
Est-ce que ça, c'est légal?
Pas du tout, Mathieu. Le droit est très clair là-dessus en France, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1991, qui dit ceci, là je cite exactement l'arrêt, « La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, donc cette convention-là contrevient au principe de l'ordre public. »
Et on risque quoi?
Aujourd'hui, on risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Cela dit, cela pourrait changer prochainement.
Alors pourquoi?
Parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est très attendu et qui devrait intervenir d'ici la fin de l'été, après 7 ans de procédure. C'est l'affaire dite Ménesson, du nom de ce couple, Sylvie et Dominique Ménesson, donc, qui sont allés en an 2000 en Californie. Là-bas, ils adoptent 2 jumelles grâce à 2 femmes. D'une part, Anna qui a donné ses ovocytes. Deuxièmement, Marie qui a porté les bébés. Et donc, ce couple va s'adresser auprès du consulat français de Los Angeles pour essayer de faire reconnaître officiellement cet enfant comme étant le leur. Ils sont dénoncés par le consulat de Los Angeles, le consulat français, auprès des autorités françaises. Depuis, il y a 2 non-lieux qui ont été prononcés en leur faveur, un au pénal, un au civil. Ces non-lieux ont d'ailleurs été confirmés par la cour d'appel. Et à ce jour donc, l'acte de naissance des jumelles a bien été transcrit par le service d'état civil français. Et donc, si la Cour de cassation confirme cet arrêt-là, ça voudrait dire que ce serait un début de reconnaissance officielle de la gestation pour autrui. En tout cas, de la possibilité de reconnaître officiellement cet enfant comme étant le leur.
Alors, qu'est-ce qui définit le statut de mère aujourd'hui?
C'est pour ça que cette question est à la fois complexe et passionnante en même temps. Jusqu'au 19e siècle, les choses étaient très claires. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler la mère génétique, c'est celle qui fournit l'ovocyte. Mais il y a également la mère gestatrice, qui est celle qui porte le bébé. Il y a également la mère nourricière, c'est-à-dire celle qui allait. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a à peine quelques dizaines d'années en France, cette pratique de la nourrice était très répandue, donc ce n'était pas la mère biologique qui allaitait, c'était la mère nourricière. Et d'ailleurs, certaines femmes qui ont recours à la gestation pour autrui prennent aujourd'hui des médicaments qui leur permettent d'allaiter un enfant, alors même qu'elles n'ont pas été enceintes de cet enfant. Et puis il y a également ce qu'on pourrait appeler la mère sociale, c'est-à-dire celle qui élève l'enfant. Là aussi, on peut revenir à quelques années en arrière. Tout ça, je vous explique ça pour vous montrer que la pratique est un petit peu floue. Parce qu'il y a, il y a des cas, des familles, dans les années 30 ou 40 par exemple, où ce n'était pas la mère biologique qui élevait les enfants, c'était quasiment la nounou, deux précepteurs, deux tuteurs. Enfin bref, ces enfants étaient autant élevés par d'autres adultes que par leurs propres parents.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres pays où cette gestation pour autrui est autorisée ?
Eh bien oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Il y a d'abord en Europe, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Grèce, il y a la Belgique. Mais ailleurs, c'est aussi le cas, notamment au Brésil, au Canada, en Australie, et également en Russie.
Et alors qu'en pense la religion ?
Alors ça devient plus intéressant, c'est qu'on ne s'y attend pas forcément. Alors évidemment, l'Église catholique est farouchement contre, ça on s'en doutait un petit peu, au nom de, et là je vous cite un texte officiel de l'Église, je crois qu'il date de 87 ou 88, qui parle d'un manquement objectif aux obligations de l'amour maternel. Donc l'Église catholique, c'est clair, c'est non. L'Église protestante est contre également. En revanche, le judaïsme est pour, curieusement, et cela même au nom du premier commandement de la Bible, qui dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Donc la gestation pour autrui est autorisée en Israël. Quant aux musulmans, c'est encore plus compliqué. Il y a d'un côté les sunnites qui sont contre la gestation pour autrui. En revanche, les chiites sont plus tolérants. Et d'ailleurs, les mères de substitution sont également autorisées en Iran. On ne sait pas beaucoup, mais vous voyez que donc selon le type de religion, les réponses peuvent être extrêmement variées pour quelque chose qui reste encore une fois très complexe et qui mérite qu'on s'y intéresse beaucoup. C'est une question très très passionnante. Qu'est-ce que c'est qu'une mère, être mère aujourd'hui?
Voilà, donc ce dossier que vous consacrez et qui se trouve dans l'Express. Vous n'êtes pas dans les kiosques aujourd'hui, j'imagine,
non,
avec
on,
les
on a un
les
petit problème de,
voilà, de grève. Ce
sera demain.
Ce sera pour demain. Merci, merci beaucoup, Vincent.
Merci Mathieu,
à la semaine prochaine.
Au revoir.
Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running.
Patrick Henry et Sophie Moreno étaient à la technique. Merci à Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. Et dans un instant, c'est Daniel Mermet avec la basse, si j'y suis.